Quoi, divin Thrasymaque, lui dis-je, c'est après nous avoir lancé un pareil discours que tu voudrais te retirer, avant de nous faire voir plus clairement, ou de voir toi-même si la chose est en effet comme tu dis. Crois-tu avoir entrepris d'établir une chose de peu d'importance, et non la règle de conduite que chacun de nous doit suivre pour tirer le meilleur parti de la vie ? Et qui vous dit que je pense autrement ? Dit Thrasymaque. Tu en as l'air, repris-je, ou du moins de ne prendre aucun intérêt à nous, et qu'il t'importe peu que nous vivions heureux ou non, faute d'être instruit de ce que tu prétends savoir. De grâce, daigne nous instruire. Sois sûr que tu n'auras pas mal placé le bien que tu nous feras à tous tant que nous sommes. Pour moi, je te déclare que je ne suis pas persuadé et que je ne puis croire que l'injustice soit plus avantageuse que la justice, même en supposant que rien ne l'arrête et qu'elle fasse tout ce qu'elle voudra. Oui, donne à l'injustice le pouvoir de faire le mal, soit à force ouverte, soit par adresse. Elle ne me persuadera pas encore qu'elle soit plus avantageuse que la justice. Comme je ne suis peut-être pas le seul ici à penser de la sorte, prouve-nous d'une manière incontestable que nous sommes dans l'erreur, en préférant la justice à l'injustice. Et comment veux-tu que je le prouve ? Si ce que j'ai dit ne t'a pas persuadé, que puis-je faire de plus pour toi ? Faut-il que je fasse entrer de force mes raisons dans ton esprit ? Oh non, de par Jupiter ! Mais d'abord, il faut t'en tenir à ce que tu auras dit une fois. Ou si tu y fais quelque changement, que ce soit ouvertement et sans nous surprendre. Maintenant, pour revenir à notre discussion, tu vois, Thrasymaque, qu'après avoir donné la définition du vrai médecin, tu n'as pas cru devoir donner ensuite, avec la même exactitude, celle du vrai berger. Tu penses qu'en tant que berger, il ne prend pas soin de son troupeau pour le troupeau même, mais comme un ami de la bonne chère qui le destine à des festins, ou comme un mercenaire qui veut en tirer de l'argent. Or, la profession de berger n'a d'autre but que de procurer le plus grand bien de la chose pour laquelle elle a été établie, puisqu'elle a pour cela tout ce qu'il lui faut, tant qu'elle reste ce qu'elle est. Par la même raison, je croyais que nous étions forcés de convenir que toute autorité, soit publique, soit particulière, en tant qu'autorité, s'occupe uniquement du bien de la chose dont elle est chargée. Penses-tu que ceux qui gouvernent dans les États, j'entends ceux qui gouvernent véritablement, soient bien aises de le faire ? Si je le crois, j'en suis sûr ! N'as-tu pas remarqué, Thrasymaque, à l'égard des charges publiques, que personne ne veut les exercer pour elles-mêmes, mais qu'on exige un salaire, parce qu'on est persuadé qu'elles ne sont utiles qu'à ceux pour qui on les exerce. Et dis-moi, je te prie, les arts ne se distinguent-ils pas les uns des autres par leurs différents effets ? Réponds selon ta pensée, afin que nous arrivions à quelques conclusions. Oui, ils se distinguent par leurs effets. Chacun d'eux procure aux hommes un avantage particulier. La médecine, la santé, le pilotage, la sûreté de la navigation, et ainsi des autres. Sans doute. Et l'avantage que procure l'art du mercenaire, n'est-ce pas le salaire ? Car c'est là l'effet propre de cet art. Confonds-tu ensemble la médecine et le pilotage ? Si tu veux continuer à définir les termes avec rigueur, diras-tu que le pilotage et la médecine sont la même chose s'il arrive qu'un pilote recouvre la santé en exerçant son art, parce qu'il lui est salutaire d'aller sur la mer ? Non. Tu ne diras pas non plus que l'art du mercenaire et celui du médecin sont la même chose, parce que le mercenaire se porte bien en exerçant le sien. Non. Ni que la profession du médecin soit la même que celle du mercenaire, parce que le médecin exigera quelques récompenses pour la guérison des malades. Non. Ne sommes-nous pas convenus que chaque art procure un avantage particulier? Soit. Si donc, il est un avantage commun à tous les artistes, il est évident qu'il ne peut leur venir que d'un art qu'ils joignent tous à celui qu'ils exercent. Cela peut être. Nous disons donc que le salaire que reçoit chaque artiste lui vient de ce qu'il est aussi mercenaire. Thrasymaque en convint avec peine. Ainsi, ce n'est point de leur art que leur vient leur profit pris en lui-même, savoir le gain de leur salaire. Mais, à parler rigoureusement, la médecine produit la santé, et le profit du médecin est le produit de l'industrie qui s'y joint. L'architecture produit la construction des maisons, et le salaire de l'architecte vient de l'art du mercenaire, qui marche à la suite de l'architecture. Il en est ainsi des autres arts. Chacun d'eux produit son effet propre, toujours à l'avantage de ce à quoi il s'applique. Quel profit l'artiste retirerait-il de son art s'il l'exerçait gratuitement? Aucun. Son art cesserait-il pour cela d'être utile? Je ne le crois pas. Il est donc évident qu'aucun art, aucune autorité, n'a pour fin son intérêt propre, mais, comme nous l'avons déjà dit, l'intérêt de celui qui est subordonné, c'est-à-dire du plus faible et non pas du plus fort. C'est pour cela, Thrasymaque, que j'ai dit que personne ne veut accepter d'emploi public ni pratiquer la médecine sans un salaire. Car celui qui veut exercer convenablement son art ne travaille point pour lui-même, mais pour la chose sur laquelle il l'exerce. Il a donc fallu attirer les hommes au pouvoir par quelques récompenses, comme l'argent ou les honneurs, ou, en cas de refus, par la crainte d'un châtiment. Comment l'entends-tu ? Dit Glaucon. Je connais bien les deux premières espèces de récompenses, mais je ne conçois pas quel est ce châtiment dont l'exemption est, selon toi, comme une troisième sorte de récompense. En ce cas, lui dis-je, tu ne connais pas la récompense des honnêtes gens, celle qui les détermine à prendre part aux affaires. Ne sais-tu pas que l'amour des richesses et des honneurs est et passe pour une passion honteuse? Je le sais. Les honnêtes gens ne veulent donc entrer dans les affaires ni pour s'enrichir, ni pour avoir des honneurs. En acceptant un salaire pour le pouvoir qu'ils exercent, ils craindraient d'être appelés mercenaires ou voleurs en se payant eux-mêmes par des profits secrets. Ce ne sont pas non plus les honneurs qui les attirent, car ils ne sont pas ambitieux. Il faut donc qu'ils soient forcés de prendre part au gouvernement par la crainte d'un châtiment. Et c'est pour cela, apparemment, qu'il y a quelque honte à se charger du pouvoir de son plein gré et sans y être contraint. Or, le plus grand châtiment pour l'homme de bien, s'il refuse de gouverner les autres, c'est d'être gouverné par un plus méchant que soi. C'est cette crainte qui oblige les honnêtes gens à entrer dans les affaires, non pour leur intérêt, ni pour leur plaisir, mais parce qu'ils y sont forcés, et parce qu'ils ne voient personne qui soit autant ou plus digne de gouverner qu'eux-mêmes. Supposez un État, uniquement composé de gens de bien. On s'éloignerait du pouvoir avec autant d'empressement qu'on s'en approche maintenant. Dans un pareil état, on reconnaîtrait clairement que le vrai magistrat n'a point en vue son intérêt, mais celui des sujets. Et chaque citoyen, persuadé de cette vérité, aimerait mieux voir un autre veiller à ce qui lui est avantageux que de veiller lui-même à ce qui est avantageux aux autres. Je n'accorde donc pas à Thrasymaque que la justice soit l'intérêt du plus fort. Mais nous examinerons ce point une autre fois. J'attache beaucoup plus d'importance à ce qu'il a ajouté, que le sort de l'injuste est plus heureux que celui du juste. Quel parti as-tu pris, Glaucon, et que te semble-t-il plus vrai de dire ? Que le sort de l'homme juste, dit Glaucon, réunit le plus d'avantages. Tu viens d'entendre Thrasymaque énumérer ceux qui sont attachés au sort de l'homme injuste. Oui, je l'ai entendu, mais il ne m'a pas persuadé. Veux-tu que nous cherchions quelque moyen de lui prouver évidemment qu'il se trompe ? Très volontiers.